Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on était un peu obligé, l'actualité commande, hein, comme on dit dans nos métiers. Nous allons parler évidemment de la sortie vendredi dernier de la Switch de Nintendo, et puis on va parler de Zelda, et puis de l'écran qui est vendu avec Zelda en fait.
C'est ça.
C'est un peu ça l'idée.
Pourquoi ils l'ont pas appelé Zelda Machine directement, hein, ça aurait été plus rapide.
Donc nous allons parler de la Switch et de Zelda Breath of the Wild. C'est que je prononce bien ou pas, parce que...
On dirait Bretagne of the Wild, ouais, mais ouais, c'est ça.
Breath of the Wild, c'est bien. Et puis nous allons quand même parler d'autre chose, nous allons parler de l'Expo Game, le jeu vidéo à travers le temps, parce que parmi mes chroniqueurs favoris aujourd'hui, nous avons Jean Z, commissaire de l'exposition, mais on en parlera avec toi de comment c'est arrivé, comment tu as bossé sur cette expo qui est actuellement à Paris et qui est gratuite, et voilà, à laquelle vous pourrez aller tranquillement. Je vais commencer d'ailleurs en accueillant mes chroniqueurs favoris que j'ai déjà cités, donc voilà, Jean Z de France Info, bonjour Jean.
Bonjour.
Et Corentin Benoît Gonin du journal Le Gamer, bonjour Corentin.
Salut Erwan.
On commence avec toi, Jean, avec une petite news.
Une toute petite info, toute petite. Hein, évidemment, la Switch sort aujourd'hui, et comme par hasard, mais vraiment un hasard de la plus grande coïncidence, Sony a décidé de baisser, pour cette seule journée, donc du 3 mars, de baisser son prix, le prix de sa PS4 Slim à 200€, parce qu'effectivement, ça fait toujours 100€ de moins que la Nintendo Switch. Donc je trouve ça... Non, ce que je trouve marrant, c'est que dans
le... C'était une décision prise en mars
bien
2016.
Bien sûr, hein, évidemment, voire en mars 2010, et pourquoi pas en 1999. Mais ce que je trouve intéressant, par contre, dans le symbole, c'est que on prend peut-être pas la sortie de cette Switch à la légère chez Sony, et c'est peut-être aussi un bon signe pour du côté de chez Nintendo, parce que effectivement, si on peut grappiller quelques consommateurs de plus ou leur piquer quelques consommateurs de plus, donc voilà, ça n'a peut-être aucun rapport, mais je n'y crois absolument pas. Les coïncidences dans ce cas-là sont extrêmement rares, mais je trouve ça aussi bien joué de manière commerciale de la part de Sony. Mais on sent qu'il va peut-être y avoir une baston, le retour de la bataille Nintendo versus Sony en France, ça peut être pas mal.
Tu sais si cette baisse est mondiale ou uniquement en France ?
Pour l'instant, dans quelques pays européens, et uniquement pour la journée du 3 mars.
Alors, je pense.
Ah oui, c'est un hasard. Non, mais c'est ce que je vous dis depuis le début, mais complètement.
C'est l'anniversaire du mec au marketing.
Mais bien joué les gars.
Oui, c'est bien. Corentin.
Alors moi, je voulais parler d'un petit jeu là qui a été annoncé la semaine dernière, qui s'appelle Céleste. Il s'agit du nouveau jeu du studio, je ne sais pas si on peut parler de studio, mais de Matt Makes Games, qui est principalement constitué de Matt Thorson, qui a fait un petit jeu qu'on connaît peut-être un petit peu, qui s'appelle Towerfall, hein, un petit jeu multijoueur sympathique, où quatre archers dans une arène doivent se tirer des flèches dans le derrière, et très sympathique, notamment en multijoueur local dans son canapé. Et alors là, c'est les mêmes graphismes avec Céleste. C'est un jeu de plateforme où on doit gravir une belle montagne remplie de pics et de monstres et de fantômes et de tout ça. Et ça a l'air tout chouette, avec des musiques sympas comme tout, donc les mêmes graphismes que Towerfall, du pixel art mais vraiment amélioré.
Il y a
ce petit côté un peu fluide du pixel art de Towerfall, on le retrouve là dans ce jeu Céleste. Le personnage peut faire des sauts dans les airs, il a un double saut qui se recharge au bout d'un certain moment, donc ça fait qu'il y a des moments où on touche pas le sol pendant un long moment parce qu'on passe de saut mural.
C'est solo en fait.
Ça a l'air solo, il me semblait bien, ouais, mais bon, après le jeu vient juste d'être annoncé, je suis pas sûr, j'ai un petit doute, je vais pas m'avancer sur le fait que c'est solo. En tout cas, il y a un mode solo, ça c'est sûr, qui est assez avancé. Après, je ne suis pas sûr, un mode coop. Quoi qu'il en soit, ça sortira sur PS4, Steam, Switch, et c'est prévu pour la fin d'année.
D'accord. Le com des coms de la semaine dernière, j'en ai choisi un parce qu'en fait on a un programme serré, donc on a plein de choses à dire. Donc voilà, on va. Mais quand même, Écran Body, donc c'était la première participation au forum de Silence on joue, qui revient sur la semaine dernière. Nous parlions de For Honor et de Horizon. Il dit: je viens de regarder l'émission sur Noco, qui est le service en ligne de No Life, et je souhaite réagir sur votre avis proprement ahurissant à propos de For Honor. Mais comment peut-on être autant dans l'erreur? Comment, malgré vos années d'expérience et votre expertise vidéoludique, pouvez-vous sortir de telles inepties? Vous que j'aimais tant, venez en quelques minutes d'atteindre les abysses de ma considération. Il n'y a qu'une seule bonne façon de jouer à For Honor, et c'est de jouer samouraï. Oui, parce que
ouais, mais là c'est rigide. Ouais,
parce qu'il y avait deux camps en fait. On s'est un peu affronté la semaine dernière entre Patrick et Joël, qui étaient très chevaliers, et moi qui étais très viking.
C'est bien, et donc vous avez rejoué une partie de For Honor en fait.
C'est ça. Et donc voilà, donc Écran Body, lui, non, hein, voilà, Bobby, pardon, pas Body. Voilà, vous n'êtes que des barbares au long nez, banzai.
Il est allé jusqu'au
bout. C'est important parce qu'on aime avoir des avis divergents, et voilà, il faut respecter.
J'aime beaucoup les abysses de ma considération. Je ressortirai cette phrase à l'envie. Tu viens de toucher. C'est dire si c'est très très bas.
Mon frère que tu détestes.
Donc, c'était vendredi 3 mars, une sortie mondiale, ce qui n'est pas peu de choses pour Nintendo. Enfin, c'est pas courant, donc d'avoir une sortie pour tout le monde pour une console. C'était la sortie de la Switch. Ici présente Switch, donc la console. On a tellement de choses à en dire que je vais pas la décrire préalablement, parce que déjà rien que ça, ce serait prendre parti presque. En tout cas, la console qui est console de salon, qu'on peut jouer sur sa télé et en mode nomade, c'est donc la Nintendo Switch. Petite vidéo de présentation. Alors j'ai une idée, moi j'ai ça, j'ai ma partie de Zelda, donc vous êtes au top, je vous sens au top sur la Switch, vous faites le truc et puis je continue. Non, donc la Switch, donc la nouvelle console de Nintendo vient donc d'arriver, 300 euros plus.
Il n'y a pas de prix conseillé, ouais, mais on le trouve à ce prix-là en tout cas.
Aux alentours de 300 euros, et donc pour l'instant, quelques jeux dont One to Switch, dont
Zelda.
Oui, bah, et Zelda, surtout Zelda, oui, en fait. Oui. Voilà, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu là. Et Sniper Clip, voilà, qui est sorti en téléchargement, Just Dance, machin. Mais voilà, aujourd'hui, c'est surtout Zelda. Zelda, on en parlera évidemment plus en profondeur à la fin de l'émission. Vous avez eu un peu de temps avec cette console, les premières impressions. Alors, on en avait déjà parlé dans Silence on joue quand il y avait eu la présentation publique, hein, qui avait eu lieu à Paris. Mais là, maintenant, c'est quand même totalement différent pour une console de salon, de l'avoir dans son salon et d'expérimenter le truc. Jean, toi, t'es...
Elle n'a pas quitté mon sac, du moment où je l'ai eu à là, mon sac n'étant pas loin, la Switch n'est pas loin. Non, moi, je trouve que la console... Encore une fois, pour ce qu'elle est, regardons-la pour ce qu'elle est. C'est une tout en un, une trois en un, on va dire. Hein. Elle fait machine espresso et puis raclette, quoi. C'est-à-dire on peut jouer à plusieurs, on peut jouer seul, un peu comme la Vita, on peut la jouer façon 3DS, on peut la jouer façon Wii. Je trouve qu'elle a assez peu de rapport, heureusement, à la Wii U, qui est peut-être... parce que le concept n'était pas clair et que même Nintendo, je pense, n'avait pas compris son concept. Donc, bon, c'est compliqué dans ces cas-là. Donc là, ils ont compris.
Pour vendre ta console, ouais. Le premier truc dont tu parles, c'est gameplay asymétrique. C'est un peu
probable. Et que tu fais que deux jeux et demi de gameplay asymétrique, ouais. Ça commence à devenir extrêmement complexe. Là, ils tiennent leur concept. Elle est de salon, elle est nomade et elle est conviviale. Ils font les trois, exactement. Ça marche très fort. Maintenant, il s'agit peut-être de la comparer à d'autres, parce que là, on la prend pour elle-même. Pour elle-même, moi, je pense que je trouve qu'elle fait le job. Moi, je l'aurais acheté, je n'aurais pas acheté la Wii U.
Ouais.
C'est clair, parce que je ne la comprends toujours pas. J'ai même eu du mal. Voilà, j'ai passé 4-5 ans à l'expliquer difficilement à l'antenne. Là, là, je la comprends. C'est pas seulement une Vita et c'est pas seulement une 3DS, c'est aussi quelque chose qu'on peut partager. Et ça, par contre, est partagé avec tous les publics, j'entends. C'est-à-dire que là, si on veut emmener la grand-mère ou si on veut emmener, si on veut jouer avec un pote qui s'y connaît, on peut faire les deux. Mmh. Et ça, c'est quand même la magie, peut-être la magie de cette console. Et c'est peut-être aussi ce qu'ils ont cherché, je pense. C'est cette fois à fédérer, à tenter de fédérer tous les publics. Et je pense qu'elle peut y arriver, voilà. En tout cas, à l'usage, elle le fait.
C'est finalement la, pas la conclusion, mais c'est l'aboutissement de la politique de Nintendo lancée avec, avec la DS. Lancer le côté, le pas de côté de Nintendo avec la DS, où ils décident, ok, bon, vous êtes gentil, Sony, Microsoft, nous on joue pas dans la même. Enfin, on décide.
Oui, qu'ils ont décidé de faire ça, parce que la DS était quand même dans une continuité de puissance. Et en fait, la DS, il avait vraiment sorti dans la précipitation en réponse à la PSP,
ouais,
de Sony.
Historiquement, la Wii et la DS, c'était dans une période assez proche et c'était
la, c'était cette plutôt politique. La Wii, hein, ouais. le vrai moment où Nintendo a dit stop! On arrête, on ne court plus, on reste derrière. Parce que la Wii est vraiment très comparable à la GameCube en termes de puissance, là où la DS, c'est quand même un pas en avant notable par rapport à la Game Boy Advance.
C'est un peu l'aboutissement de cette logique-là, ce...
Je sais pas, moi je vois plutôt ça comme regrouper ses assets dans un seul... regrouper ses, comment dire, ses propositions de produits dans une seule gamme, finalement. Même s'ils disent le contraire aujourd'hui, ils nous disent mais si on va continuer à 3DS, évidemment qu'on va avoir une gamme portable. Je pense pas que ça va être le cas, parce qu'elle va, elle va continuer à faire. Cette console est une très bonne console portable. Je vois pas de raison de continuer à jouer sur 3DS. La 3DS est une console vieillissante. Je pense s'ils proposent une nouvelle console portable demain, ça va être incompréhensible en termes de gamme. Cette console-là va être perçue à la fois comme une console portable et à la fois comme une console de salon. Ils mettent tous leurs œufs finalement dans le même panier, mais dans le bon sens du terme, parce que la 3DS malgré tout a fonctionné, même si elle a moins bien fonctionné que les machines précédentes. La Wii U n'a pas réussi sa mission entre guillemets. Là ils essayent de...
Il n'y a pas de guillemets, hein. c'est un naufrage.
Mais ce qui est, c'est pas un naufrage complet, parce que le catalogue de jeux est quand même plutôt bon, enfin je vais voir parfois très très bon. C'est là où est l'ambivalence en fait, de cette Wii U.
On va se retourner sur la Wii U et on va faire c'est comme la Dreamcast, elle avait quand même de très bons jeux dessus.
Ah non, mais moi c'est clair, la Wii U est une des consoles qui tourne le plus chez moi, ne serait-ce que pour Yoshi's Woolly World.
Effectivement, bon là on est d'accord. Hein.
Mais du coup, ils essaient de se focaliser et peut-être finalement leurs deux nouvelles gammes à partir de maintenant avec la Wii U, ça va être la Switch d'un côté. Et le mobile de l'autre, puisqu'il commence vraiment à démarrer avec des jeux mobiles qui devraient arriver, je pense, maintenant à un rythme régulier. Je pense que le prochain exemple sera l'Animal Crossing qui devrait arriver cette année. Je pense qu'on aura ces deux games-là, la Switch d'un côté et le mobile de l'autre.
Un gros désaccord de ton côté, Jean.
Non, parce que je vois, tu savais plusieurs jours que je vois des tweets en disant, par exemple, c'est pas grave, c'est une console portable. C'est pas une console portable. C'est une console qui fait les trois. Chez les gens, elle sera branchée à la télé, on la mettra, on pourra la jouer à la télé, ça en fait d'elle une console de salon. Point. Qu'elle soit effectivement, sous la PS4 et la Xbox One, surtout que maintenant qu'ils sont eux aussi installés des gammes, et le PC bien évidemment, mais ça, c'est toujours une console de salon. Pour moi, c'est la Wii U qu'elle enterre, et FISA d'ailleurs, hein, parce que je crois que la Wii U c'est 4 ans, hein, donc FISA même au pas de charge.
C'est une ancienne durée de vie.
Je vois encore une nouvelle 3DS, enfin quelque chose qui soit nouveau du côté du portable et qui puisse s'adresser à des enfants plus jeunes, c'est-à-dire qui n'emmèneront pas un écran aussi grand, enfin, parce qu'il faut quand même signaler que c'est une portable. C'est quand même une belle machine qui tient entre de grandes mains.
Je suis assez d'accord, ça me semble assez compliqué pour Nintendo d'abandonner une console portable qui, d'une part, est un objet qui appartient aux enfants. Il appartient aux adultes aussi, hein, mais c'est un objet qu'on donne aux enfants. On donne une 2DS ou une 3DS aujourd'hui aux enfants, qui est vraiment transportable, avec une autonomie quand même autrement que plus importante que celle-là. Et moi j'ai joué, j'ai joué aujourd'hui dans le bus à ça. Oui, c'est super. Alors pour le coup, c'est vraiment génial. Après, moi c'est un objet qu'on n'a pas forcément envie d'avoir tous les jours d'une manière assez anecdotique dans son sac. Enfin, c'est un objet, on sait qu'on l'a dans son sac, c'est important. Par contre, une DS, c'est un truc qu'on balance dans son sac.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de jouer avec des consoles portables, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ont arrêté de jouer avec des consoles portables. Quand on regarde les résultats...
Parce qu'il y a les smartphones, c'est un autre sujet.
Exactement, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus avoir, de manière générale, une autre machine que son smartphone dans son sac. Et qu'elle soit grosse comme la Switch ou grosse comme une PS Vita, le fait est que la console portable se fait petit à petit phagocyter par les smartphones.
Après, l'argument se tient. Hein. De toute façon, on ne sait pas aujourd'hui à qui elle succède, en fait,
bon,
en réalité.
C'est
la
Nintendo
le problème, c'est que la 3DS fonctionne encore malgré les smartphones. C'est-à-dire que certes, ce n'est pas le succès de la DS, mais en termes de vente, et j'imagine donc en termes de chiffre d'affaires, et donc de bénéfices, ça fonctionne très bien. Et imaginez.
Ça a recartonné avec le dernier Pokémon.
Imaginez une autre 3DS, enfin une 3DS future, je ne sais pas quel nom. Moi, je pense que. Enfin, en tant que financier, rien que d'un côté financier, on peut se dire, bah non, on peut encore miser une piécette quand même sur une nouvelle 3D. Or, sur une nouvelle console de salon, non. Mmh. Voilà, c'est celle-là. Enfin, voilà, ouais. Point, c'est la proposition. Elle fait les trois en un, et puis voilà.
Alors, pour revenir aux premières impressions, toi, Corentin, quand tu...
Je pense qu'il y avait une mission à remplir pour cette Switch, et je pense qu'elle le fait avec brio, c'est la proposition de base qui est, on passe de la télé à l'écran de portable rapidement, et ça marche nickel. Je veux dire, c'est instantané quand on passe de la télé à la Switch, et évidemment, il y a le petit temps que la télé comprenne qu'il y a un signal entrant qui vient dans l'écran, donc ça prend 2 secondes dans ce sens-là, mais sinon, le concept marche.
Ça va être difficile de revenir en arrière. Parce que maintenant qu'elle a posé ça et que les autres vont se dire, ah, c'est pas mal.
Il y a une espèce de
loquet, c'est juste quelques secondes, c'est clac, et voilà.
C'est ce qu'a écrit Franz dans l'article de Libé, c'est genre un besoin qu'on n'était pas au courant qu'on l'avait.
Oui. C'est exactement ça.
Ils ont trouvé un besoin qu'on avait pas avant, dont on n'avait pas conscience, en fait.
C'est ça, et maintenant c'est vrai que, en fait, c'est une question qu'on se posait pas, c'est genre, j'aimerais bien aller me coucher. Ah, je pourrais emmener la Switch quand même dans le lit et tout. Du coup, on la prend, on la débranche, puis on y va, quoi. On va dans le lit, puis on finit sa partie de là, puis on s'endort à 4h du matin et c'est l'horreur le lendemain. Mais c'est terrible parce que du coup, l'expérience de jeu est encore plus, on va dire, ininterrompue. On peut continuer à jouer comme ça, sans interruption, que ça soit à la pause pipi ou les transports en commun. Tu y as la possibilité de ne jamais s'arrêter. Et ça, alors je sais pas si c'est bon pour la société de manière générale, mais en tout cas pour le joueur, il y a un confort qui est absolument incroyable. Et là-dessus, vraiment, ça va être dur de revenir en arrière. Je suis absolument d'accord avec Jean là-dessus. Après, il y a aussi cette notion, on va revenir sur l'aspect console portable, mais elle fait un peu comme la Vita, c'est-à-dire qu'on l'éteint jamais vraiment. On va la mettre en veille. Et donc, il y a très peu de lancement, de temps de chargement. On redémarre immédiatement la partie. Enfin, en tout cas, avec Zelda, j'arrêtais de jouer, j'appuie sur le bouton veille.
La veille de la veille.
Je mets le bouton veille, je pose la console. Le lendemain, je voulais reprendre ma partie. J'appuie sur le bouton veille. J'en étais exactement là où j'en étais dans la partie. Ça a pris un quart de seconde. Et ça fait plaisir, surtout quand on a eu cette Wii U absolument terrible au niveau des lancements, des menus, insupportables, les temps de chargement, insupportables, machin. Et même quand on l'éteint, elle se rallume très vite. Les menus à l'intérieur, alors c'est rachitique, hein, y a pas grand chose dans lui pour l'instant. Il manque, on aurait pu attendre ne serait-ce qu'un lecteur multimédia, quelques applications de base comme YouTube ou ce genre de choses. Il n'y a pas tout ça pour le moment, mais bon, ça pourra éventuellement être mis à jour.
Il y avait même Netflix sur la Wii U, hein, donc.
Netflix arrive plus tard, mais il y avait YouTube.
Oui, non, mais il est arrivé plus tard, mais finalement.
De toute façon, la balle est dans le camp de Netflix. S'ils ont envie de faire une application Switch, je pense qu'ils la font. Ce serait dommage de ne pas profiter de cet écran. Cela étant, c'est vrai que l'interface utilisateur est assez rachitique pour l'instant, mais alors qu'est-ce qu'elle est efficace? Ça va vite, il y a des petits bruits, c'est instinctif, il y a un petit côté un petit peu moderne nuit, donc l'interface utilisateur de Microsoft avec ces grosses plaques qu'on a et qui indiquent quel jeu. Ouais. C'est graphique, c'est élégant. Ils ont pas répété l'erreur de la Wii U qui était déjà premier truc, tu lances la Wii U, alors on va télécharger un patch, ça va prendre 1 heure, l'horreur quoi. Et en plus dès que tu voulais modifier un paramètre dans la Wii U, ça prenait 1 demi-heure à chaque fois que tu voulais changer de menu, c'était insupportable. Au moins il y a pas ce problème et elle est très efficace à ce niveau-là. C'est déjà un bon point pour cette console.
Et moi alors le truc qui m'a épaté, c'est que j'arrive à avoir un avis sur une console où il y a un jeu. Depuis quand même quelques années, on va dire depuis la PlayStation 2 ou la PlayStation 3, peut-être parce qu'il y a eu une vraie uniformisation du matériel à partir de la PlayStation 3 qui était très proche de la Xbox 360, enfin voilà. On a vraiment dit c'est les jeux qui comptent. La console en elle-même, on s'en fout, c'est lambda et tout ça. C'est le catalogue de jeux qui compte. Et là, Nintendo, ils ont pris un parti quand même super, moi que j'ai trouvé dangereux, en tout cas sur le papier, qui est de dire, on lance notre console avec, je sais pas, 4, 5, 6 jeux.
14 jeux, je
pense. Ouais, bon, 14 jeux, parce qu'il y a...
Il y a des indés.
Oui, oui, dont...
PlayStation 2, hein, pardon, Fantavision.
Non, mais c'est vrai.
Vous
c'est
des
vrai.
Douleurs de la PlayStation 2, qui après, quand moi, même...
Il y a 14 jeux dans World of Goo, hein, quand même. World of Goo, c'est...
Ouais, mais bon, il n'empêche qu'il y a des jeux. Et, bon.
N'empêche qu'il y a Zelda, quoi.
Voilà, ça, moi, je préfère un live avec un Zelda.
Voilà, surtout, rien autour.
Ça, c'est très clairement
le cas. Il y a Zelda et Sniper Clip. Là, si vous avez deux jeux, le Sniper Clip à deux, vous comprenez tout de suite. Mais c'est vrai que tu as raison. Normalement, on dit les jeux. Ceci dit, moi, quand on me pose la question, il y a la Switch, mais tu sens très bien que derrière, il y a quoi ? Il y a Zelda. Parce que la question d'après ou la question d'avant, enfin bon, bref, ce Zelda, on l'attend. Hein.
Oui. Bah, je continue de déconseiller l'achat d'une console pour un jeu, comme l'achat d'une console au jour 1. Parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des vis de fabrication dans cette console. Certains journalistes ont eu des soucis. Ils ont eu des problèmes notamment de désynchronisation de Joy-Con.
J'en ai eu une fois.
Où elle s'est désynchronisée, mais c'est arrivé une fois en une semaine de test, donc j'estime que ça va, tu vois, c'est pas horrible. Mais si c'est arrivé à plusieurs journalistes sur un panel restreint de consoles, quand ça sera dans les mains du grand public, on va peut-être s'attendre à certains retours soit de Joy-Con, soit de console. Ouais. On va voir. En tout cas, moi, je donne toujours le conseil, n'achetez pas une console jour 1.
On en parlera dans la suite de cette émission, mais c'est dur de dire attendez, parce qu'il y a quand même un Zelda qui est là, et pas n'importe quel Zelda pour le coup. Juste pour montrer la console qui se présente.
La version colorée. Hein.
La version.
Très belle d'ailleurs.
Ouais, que je trouve avec un
néon, elle est cool.
Le côté bleu et le côté. Moi, j'ai été assez épaté de la simplicité pour le coup, alors parce qu'il y a quand même beaucoup de boutons.
Dans la pub quand même. Hein. La pub, c'est vraiment. Oh, regardez, c'est facile.
Et donc, en fait, il y a ces deux trucs. Donc, à ce moment-là, la console reste dans son socle.
Elle est assez discrète, dans son socle. D'ailleurs, il y a un petit bout d'écran qui apparaît.
Que je vais éviter de mettre dans le. Et donc, les Joy-Con se mettent dans un support qui en fait une manette finalement.
Pas mal.
Assez acceptable.
Bon, après, il ne faut pas la comparer à celle de la Xbox One, mais elle reste quand même.
Finalement, minimale.
Oui, non, mais ce qu'on se dit, c'est oh mon Dieu, ça va être compliqué avec moi, surtout mes gros doigts.
On finit par s'y faire. En fait,
c'est ça, exactement.
Ouais. C'est des commandes acceptables si on prend le point de vue de la console portable. J'ai comparé la taille des boutons, c'est vraiment la taille des boutons de la 3DS, par exemple. Mm-hmm. Les sticks sont mieux, évidemment, que ceux de la 3DS, sont aussi un petit peu mieux que ceux de la Vita, il faut être clair, mais ils restent moins bien que soit d'une PlayStation ou soit d'une Xbox. Mais voilà, c'est un compromis, finalement, entre la place qu'on peut donner à une console qui doit être transportable et le confort qu'on doit donner à une console de salon.
Mais c'est vrai que ce serait génial, quand même, de se trouver à dire « j'achète une console pour son concept ». Mais moi, j'aurais acheté la console pour le concept. Je le dis pas pour le Zelda.
C'était effectivement le but de ma première remarque. C'est que le concept est relativement fort, quand même, et peut attirer, ne serait-ce rien que pour sa promesse, de…
Dans les grandes villes, si on prend beaucoup les transports en commun, qu'on aime le jeu… Voilà ce que disait Corentin, ça s'allume, hop, on prend le même jeu, c'est-à-dire qu'on ne sacrifie rien, c'est même peut-être le contraire, c'est-à-dire que sur le petit écran, on a parfois mieux que ce qu'on a, un meilleur rendu que ce qu'on a sur la télé. Donc de fait, pour les amoureux du jeu, moi je prends beaucoup les transports, elle sera quasiment tout le temps avec moi. Enfin après ça dépend des jeux évidemment, mais voilà. Et puis dès que quelqu'un veut jouer, oh bah tiens je te montre, parce que je sais que la rapidité maintenant c'est comme ça.
D'ailleurs tu en parlais, c'est important, je pense que c'est la seule console sur le marché actuellement, tu la sors de la boîte, tu peux jouer à deux. Et ça, mine de rien, c'est super fort, je pense. C'est vrai que l'aspect, tu en parlais, hein, l'aspect un petit peu, regardez, on enlève les Joy-Con, on les décroche, on met la petite béquille comme ça, on pose l'écran sur la table, et vas-y, tiens, prends ta manette, et puis on joue ensemble, tac, tac.
Et t'allumes, tu mets ta cartouche. C'est cartouche, quand même, le retour de la cartouche, c'est quand même drôle.
Tu veux souffler Petite parenthèse, Nintendo a communiqué là-dessus, ils ont mis un produit spécial sur leur cartouche pour qu'elles aient un goût détestable. J'ai essayé pour vous.
Répulsif.
Toute la presse JV a essayé pour vous en vrai, hein, mais c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse.
Donc, ça marche bien.
Et c'est fabuleux. C'est une super idée. Hein. Pour les enfants, c'est.
Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai aussi goûté les Joy-Con.
Tu l'as avalé.
Du coup, maintenant, à One to Switch, je suis super fort. Je bouge mon ventre. Non, mais cela dit, voilà, bon, ils pensent aux enfants, c'est rigolo. Mais c'est vrai que le côté, regarde, je te montre, on pose la manette comme ça, ils vont jouer comme ça. Mais ça va donner envie à plein de gens qui s'y connaissent pas aux jeux vidéo, parce que c'est un concept tellement simple, tellement compréhensible, comme ça, en un claquement de doigts, que ça marche.
Inattendu après la Wii U, personne comprenait rien.
Et en fait, ils ont, parce que ce que je trouve, c'est la force. Finalement, l'énorme force de la Wii. Rappelez-vous la Wii et ce succès absolument dingue en termes de nom. On était sorti du marketing, on était sorti parce que ils avaient réussi un truc qui est ultra rare, c'est le bouche à oreille. Enfin, parce que les gens allaient chez d'autres. Et puis, on va faire une partie de bowling, on va faire une partie de tennis, on va faire un machin.
Les centres commerciaux, etc., qu'ils avaient senti déjà ça. Ouais. Tout le monde voulait tester le bowling et le tennis.
Et vas-y qu'on retourne chez nous et puis on commande notre propre Wii. Et là, il y a un gros potentiel à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en plus, ils sortent le côté bouche à oreille, ils le sortent en nomade.
C'est vraiment abaisser un peu le prix d'ici un an. C'est pas le phénomène.
Ce sera les constructeurs. En plus, on a de la chance en France, ils se font la guéguerre un petit peu, les distributeurs. Je crois qu'on a les prix les plus bas d'Europe à ce niveau-là.
Autour de 250, au bout de quelques mois, même au bout d'un an. Parce qu'il y a une question de prix. Là, oui, je sais pas si elle a vite baissé, faudrait regarder. Mais en tout cas, elle s'est très vite pliée.
Elle était déjà peu chère au lancement.
Oui, et je crois que c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi une question de prix par rapport au grand public. Mais le concept, le grand public va le comprendre tout de suite.
La Wii U n'a jamais baissé. Ça, c'est la Wii U est restée au même prix.
Je pense qu'ils avaient assimilé le concept d'échec très tôt.
Nintendo a continué de concevoir ses consoles de A à Z, on va dire, jusqu'à la Wii U. Là, ils ont laissé notamment, enfin, ils sont passés sur une architecture un peu plus classique. Ouais. D'ailleurs, ce qui va permettre aux indés de faire un travail un peu plus facile de portage de jeux sur cette console-là. Mais ils ont fait comme Sony, en fait. Ils se sont dit, bon, on va arrêter de réfléchir à nos consoles de A à Z. On va un petit peu laisser ceux qui savent faire. Et ça permet de faire des consoles peut-être un peu plus intéressantes d'un point de vue technique et aussi un peu moins chères.
Mais ce que tu disais intéressant, c'est que Nintendo arrive avec un concept, effectivement, et les deux autres sont des PC light.
Oui, c'est ça.
Des PC plug and play, quoi.
Très facile d'utilisation, où effectivement le pilote ne te fera pas cracher le machin. Ça, c'est vrai. Donc, beaucoup plus facile d'utilisation. Mais on est face à deux machines qui sont, si on veut bien les regarder, pas identiques, mais assez proches. On a une guerre des jeux, on a une guerre des licences, etc.
Guerre unilatérale en ce moment.
Ouais, c'est ça. On peut désigner le vainqueur, mais c'est quand même intéressant que Nintendo peut-être affronter Sony, l'ogre Sony, concept contre PC Lite ou PC plug and play.
C'est une stratégie qui est intelligente en vrai. Ils peuvent pas être compétitifs sur le plan technique parce qu'ils ont pas les bonnes relations au niveau des fabricants, on va dire, de composants, tout ça. Ils peuvent pas être aussi efficaces d'un point de vue négociation au niveau des prix, tout ça. Donc ils font un concept fort et je pense que si pour la Wii U ça a pas fonctionné, ils ont tenté, ils ont raté. Là, je pense qu'ils ont leur chance, tout à fait.
Bah, de toute façon, on sera jugé par l'avenir. Notre enthousiasme pourra être ressorti contre nous.
Il y a eu une petite conférence qui est un peu passée inaperçue là, cette semaine, mais sur les indés, il y a une flopée d'indés qui arrive sur Switch cette année. Alors, j'en cite quelques-uns, mais Mille et un Spikes, qu'on vous avait déjà parlé dans Silence on joue, il y a Cave Story qui est incroyable, Isaac, bon, qui est une référence hallucinante, Towerfall, mais avec les deux petits Joy-Con, mais évidemment. Overcooked, Overcooked. Il y a Shovel Knight, il y a Pocket Rumble, qui est un petit jeu de combat, pareil. Shovel Knight, donc dans sa version avec tous ces DLC, machin, ils ont un peu changé leur modèle économique, c'est devenu un peu imbuvable, mais bon. Il y a Stardew Valley aussi. Stardew Valley,
Stardew Valley en nomade.
En nomade, mais vous allez faire.
Ah, c'est bien ça.
Et voilà, et donc Hunter the Gungeon aussi, The Game, plein de petits jeux en fait finalement. Le jeu en local, disons le couch game, et c'est vraiment déporté sur PC ces derniers temps, parce que voilà, plein d'indés se sont dit, tiens, vas-y, on sort nos 4 manettes Xbox 360 et on joue à des petits jeux en 2D. Waouh! Avec la Switch, c'est exactement ce qui va être bien. Et d'autant que, voilà, on n'est pas obligé de connecter que deux Joy-Con, on peut en connecter quatre, on peut connecter des contrôleurs pro aussi.
Ça veut dire aussi qu'au niveau des développeurs kit, on est sur des technos proches du PC.
C'est du Tegra X.
C'est combien?
Il y a un truc,
Mais bref, c'est un truc connu. qui est plus facile à adapter, alors que la Wii U, même Nintendo avait du mal à programmer dessus, donc c'est un peu problématique quand on est constructeur de sa propre machine. Mais ouais, Nintendo a mis un temps fou avant de maîtriser la techno de sa Wii U. Alors une fois qu'ils y sont arrivés, ils ont fait des jeux magnifiques. Enfin, je veux dire, Mario Kart 8, même aujourd'hui, tu te dis comment ils tournent sur cette console, c'est hallucinant. Là, ça va être beaucoup plus facile, je pense, pour nombre de développeurs, pour se dire, allez, on a quand même envie d'être sur une console Nintendo, merde, c'est quand même la classe. Ouais. Et ils vont y aller, et ça va être que du bonheur, je pense, pour les amateurs de petits jeux et de jeux indépendants.
Bon, bah, un bon feeling. Et puis, bah, on va parler un peu plus tard dans cette émission du très gros morceau, donc, de cette sortie de ce vendredi 3 mars 2017. Hein. C'est pas tant la console que le jeu qui va avec. Mais on va passer à Monsieur Fall. Oui, parce qu'il faut d'abord accueillir, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine, je vous propose de plonger dans les arcanes de la psychologie de l'intelligence psychologique grâce à Profiler, un jeu signé Romaric Gallonier. C'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties qui vont durer une trentaine de minutes et c'est édité par Cocktail Game. Alors quand on regarde la boîte de Profiler, on se rend bien compte. On se rend bien compte que ce n'est pas un jeu à l'allemande avec des cubes en bois, de l'intelligence pure, du jeté dé ou du foutage sur la gueule à coups de figurines. Non, Profiler ressemble à un party game, mais ce n'est pas un party game qui fait tutu-pouet-pouet, ce n'est pas de la franche rigolade. C'est un jeu malin qui va déclencher des sujets de conversation. Oui, car vous allez devoir profiler des personnalités, des gens célèbres, comme Charlie Chaplin ou le Dalai Lama, et tout ça de manière fine et extrêmement subtile, car il va y avoir un émetteur et des récepteurs. L'émetteur va tirer 6 cartes personnalités diverses et variées qu'il va mettre sur le devant de la table. Il va tirer une petite carte avec un numéro qui va lui indiquer quel personnage il va le devoir deviner. Et pour le faire deviner, il dispose d'une petite réglette posée au centre de la table. Réglette proposant des valeurs allant de plus 5 à moins 5. Plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, 0, moins 1, moins 2, etc. Ensuite, il pioche 2 cartes avec des phrases dessus. Des phrases comme par exemple « Il aime prendre le bus. J'aimerais bien que ce soit mon père » ou « À militer pour le mariage pour tous », etc. Et ces 2 cartes, il va devoir, le joueur émetteur, les placer sur la réglette à une valeur d'échelle permettant de deviner lequel c'est au milieu des 6 autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il va falloir évaluer les autres personnalités et la personnalité en question et bien sûr les gens qui vous connaissent et les gens autour de la table qui sont censés vous connaître. Enfin bref. Comme toujours, les jeux ultra simples, les party games sont les plus difficiles à expliquer. Mais croyez-moi, mon cher Erwan, Profiler, c'est de la bombe. On se rend compte qu'il est extrêmement facile de définir quelqu'un à partir de 2 phrases. Et ça, c'est dingue. Et bien sûr, il y a tous les sujets de conversation qui vont avec. Profiler, c'est fin, c'est malin, c'est subtil, c'est intelligent, c'est très plaisant. Profiler, c'est signé Romaric Gallonier. C'est pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans, partie pratique de 30 minutes. Ça coûte autour de 22€, je crois. Et c'est édité par Cocktail Game. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv et les lives Facebook de tests de jeux de société aussi qu'ils font, qui sont formidables. On va parler, Jean, ça me fait super plaisir que tu reviennes. Tu étais venu pour parler du PlayStation VR, t'es assez pour les... je te convoque pour les sorties de
manette. Ouais, pour du lourd, rappelle Jean.
Mais surtout, tu as une actualité parce que la semaine dernière, je crois que c'était mardi, c'était le vernissage. C'était le vernissage de l'expo dont tu es le commissaire, donc qui est Game, le jeu vidéo à travers le temps. Donc je répète, hein, c'est à l'espace Fondation EDF, 6 rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Et puis, donc c'est une exposition gratuite et que, sur laquelle tu bosses donc, quand même, depuis quelques mois. Depuis comment est-ce qu'on bosse sur une expo sur le jeu vidéo?
Bah, j'en savais rien, surtout quand les dirigeants de la Fondation EDF vous disent c'est court, hein, ça va être très court. Ah. Et vous, comme je n'ai jamais fait, donc ouais, c'est court, peut-être que c'est très court. Ouais, c'est très très court, 6 mois, je confirme. C'est beaucoup de nuits. Eh ben, on appelle MO5.com parce qu'on a une idée, parce qu'on les aime bien depuis longtemps et parce qu'on les a vus travailler, notamment à Paris, sur des.
Sur Game Story,
Grand Palais, Arts et Métiers, etc. Donc on les a vus bosser. On cherche une idée. La chronologie, ça a déjà été fait, puis ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire partir de Pong et puis aller jusqu'à Kinect, pourquoi pas la Wii, bon, bref, etc. Et du coup, moi j'avais une vieille idée, mais c'était plutôt une idée de papier. Je me suis dit, tiens, à l'heure où on parle beaucoup de gameplay bien léché, de mécanique de jeu, bref, où les gens du jeu vidéo semblent se recentrer sur finalement l'ADN, il me semble que dans l'évolution du jeu vidéo, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que le jeu vidéo se regarde de plus en plus. Il se regarde, maintenant que tu es un nouveau YouTuber, je peux t'en parler. Il se regarde beaucoup sur YouTube, il se regarde en version e-sport. Ouais. On regarde les. Alors, que veulent dire les sondages, mais beaucoup de gens finalement ne jouent pas à League of of Legends et regarde par exemple League of Legends. Et on se retrouve face à une situation extrêmement paradoxale dans l'histoire du jeu vidéo aujourd'hui, c'est que ils se regardent, si, je vais le dire, ils se regardent autant qu'ils ne se jouent. Or, c'est un divertissement interactif. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose, voilà, en détricotant jusqu'aux années 50, c'est-à-dire bien avant Pong et 72, est-ce qu'il y avait des indices pour dire de comment on est arrivé à cette situation qui est quand même un brin paradoxal, voilà.
Ouais, d'avoir une interactivité qui se regarde. C'est
oui, et qui se regarde bien.
Qui se pratique, mais qui se regarde tout le temps.
Et il n'y a pas de perte d'être. Enfin, bien sûr que si, on n'a pas la manette en main ou le PC, la souris, mais on a un vrai plaisir, sinon on n'y resterait que 5 minutes. Moi, parfois, je consomme. Mais il y a des gens qui sont quadras comme moi, qui me regardent en disant lui, sport, c'est nul. Enfin, les youtubeurs, je ne regarde pas, ça me fait. Enfin,
ouais. Mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent.
Oui. Je vais donner mon analyse globale, mais je pense que plus le média est d'une certaine complexité et plus des pratiques dérivées vont en découler. Je pense par exemple au théâtre qu'on peut lire, au cinéma qu'on peut écouter, dont on peut écouter la bande-son. Donc je pense que le jeu vidéo, c'est aussi naturel qu'on puisse avoir aussi comme ça des pratiques dérivées.
Voilà. Je sais pas si c'est une pratique dérivée, je pense que c'est une consommation dérivée ou une après j'en sais rien. Après non mais après
c'est
mais c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une vraie continuité, parce que ça c'est la question quoi, nous on peut se poser parce qu'on est connaisseurs, est-ce qu'il y a une vraie continuité entre l'e-sport et le jeu vidéo, ou il y a une vraie séparation d'être, c'est-à-dire le jeu vidéo c'est le jeu vidéo et l'e-sport c'est quelque chose à part. Moi en regardant les débuts, je pense que les chercheurs avant 72, donc c'est que des tronches qui ont imaginé des jeux pour faire parler en fait la révolution informatique. Pour faire parler à une révolution informatique que personne ne comprenait à part eux, pour le faire parler au grand public, pour le faire comprendre, ils se sont dit bah, « tiens, on va faire joujou », sauf qu'ils n'ont pas vu le côté spectacle de l'affaire.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, le côté spectacle du jeu vidéo est partout. D'ailleurs, les youtubeurs sont un peu les nouveaux animateurs, les animateurs du 21e siècle. Et je trouve qu'il y a des choses à aller chercher. Alors après, je ne donne pas un avis, ce n'est pas une expo à thèse, peut-être que je me plante complètement et que c'est un pur dérivatif et que, etc., et que ça se complexifie. Peut-être qu'il y a une liaison, une vraie liaison, et que le jeu vidéo est peut-être plus que ce qu'il n'était, c'est-à-dire qu'il est vraiment un spectacle. En tout cas, voilà, j'ai essayé de tricoter en jouant, il y a une trentaine de postes jouables, on a une Burnout Run 86, moi je la voulais, parce qu'elle est aussi belle à voir qu'à jouer, et que c'est génial, j'avais mis du Dance Dance Revolution, parce que d'un coup, la salle d'arcade devenait un théâtre, et qu'il se regardait aussi, on regardait les autres jouer. Donc voilà, il y a toute cette idée de regard, interaction, regard, dans, qui est
et quand même, c'est à noter, hein. Il y a Tennis for Two, donc Tennis for Two dans 58. Les années... 58, William Higginbotham, qui est ce chercheur pour l'armée et puis pour les missiles balistiques, hein, notamment.
Oui,
voilà,
bah, il a participé au projet Manhattan, première bombe atomique quand même. Hein. Oui, non, c'est pas le...
Et à l'occasion de Journée Porte Ouverte, allez, vas-y, on va faire le jeu vidéo, et Tennis for Two qui débarque comme ça, comme étant le premier jeu vidéo jouable de l'histoire.
Oui, comme étant... Alors, c'est assez compliqué maintenant, en regardant, est-ce que c'est le premier jeu, certains mettent Space War, c'est compliqué. Alors du coup, j'ai même pas essayé de définir qui était le premier, puisque je montre Oxo en 52, est-ce que c'est un jeu vidéo ou pas, bon bref. Mais ce qui est génial, c'est que lui, il montre un truc en se disant, oh là là, ça va être ennuyeux, on a que des trucs, oh là là, du matériel, personne ne va rien comprendre. On va faire un petit jeu, ça va être sympa, non, parce que c'est ce qu'il se dit, le truc cartonne, il le remet l'année d'après, mais Space War est beaucoup peut-être plus intéressant en 62, parce comme d'autres facultés américaines ont le même ordinateur, c'était le truc le truc impossible quoi, à l'époque, c'était un ordinateur, c'est complètement fou, ils vont hacker, c'est-à-dire que l'informatique, c'est du piratage et ils vont se le pirater, se jouer entre eux, etc. Voilà, et il y a quatre jeux comme ça assez improbables, donc dont le ping-pong aussi de Ralph Baer, celui qui a copié de la Brown Box, celui qui a copié génialement, mais enfin copié quand même Nolan Bushnell, en s'inspirant pour le dire. Non, mais à jouer les deux, par contre, vous pouvez jouer Pong
et Pong le ping-pong infiniment meilleur.
Non mais c'est pas, il y a pas photo finish, mais là on peut comparer les deux et se dire ah mais bon, est-ce qu'il a vraiment pompé? Ouais, enfin bon, il a quand même heureusement qu'il s'est inspiré quand même de loin, parce que le ping-pong de Ralph Baer est très très difficile.
Que ce soit Bushnell qui ait vu le truc en mars et qui ait juste décrit sur une feuille à Al Alcorn, son développeur,
Lui a fait un vrai jeu, parce que l'autre est comme compliqué. Voilà, donc il y a tout ça, je pense que pour les anciens. Et c'est aussi une expo qui se regarde. On l'a voulu belle, c'est un lieu d'expo d'art contemporain. Et on voulait se dire qu'il y a une scénographie, elle est belle, on peut juste la regarder, pourquoi pas. Et dire aussi, le jeu vidéo, ça peut être beau. Voilà, il y a une fausse galerie, par exemple, on a pris des captures de jeux, de Mazoir jusqu'à Bloodborne, et en se disant, est-ce que c'est beau? Est-ce que si on arrête l'image, mais pas des artworks, si moi, parfois, je m'arrête dans un jeu, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est beau? Zelda, alors là, c'est le nouveau jeu Instagram pour moi, après Uncharted 4. Voilà, est-ce que si on s'arrête, est-ce qu'on peut trouver le beau, je sais pas si c'est de l'art, peu importe aux visiteurs de décider, mais au moins il y a aussi ce regard-là qui est porté.
Donc, Game, le jeu vidéo à travers le temps, à l'espace Fondation EDF, donc 6 rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Et c'est entrée libre.
Et alors, faut t'appeler monsieur le commissaire maintenant?
Non, oui, c'est ce qu'on m'appelle, j'ai un beau papier, alors moi j'arrive plus, j'arrive toujours pas, mais.
Ça, c'est quand même la classe.
Ouais, ça, c'est quand même la classe, en fait. Alors, au début, il y avait commissariat, deux points. Non, on va mettre commissaire, parce que le commissariat, ça fait un petit peu beaucoup pour moi, les connotations. C'est sympa, mais.
D'un coup, c'est un peu violent.
Ça fait un peu képi, là, quand même. C'est un petit peu bizarre. Voilà.
Bon, alors on va revenir sur cette Switch et avec quand même le gros morceau qui est sorti le même jour, vendredi dernier, le 3 mars 2017, avec la console. Je veux bien sûr parler de Zelda Breath of the Wild.
Tu ne te souviens pas de moi, on dirait.
Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle.
C'est le grand retour de Link, de Zelda, du royaume d'Hyrule et de toute la mythologie qui va avec et qui reboot à chaque numéro. Et à chaque numéro, le héros ne se souvient pas qui a déjà sauvé quand même la princesse un certain nombre de fois.
Ça se voit que tu connais pas Zelda, c'est à chaque fois un Link différent. Enfin,
oui. En fait, non, je connais pas Zelda. c'est comme ça. Le Zelda qui est le gros truc, est-ce que c'est... Oui, c'est une console pour jouer à Zelda aujourd'hui. Sincèrement, c'est une console pour jouer à Zelda.
Oh, disons
est-ce
ça.
Est-ce que quelqu'un peut acheter la Switch sans acheter
non,
Zelda?
Évidemment, la seule raison pour laquelle vous pourriez acheter la Switch aujourd'hui, c'est pour jouer à Zelda. Après, est-ce qu'il faut le faire? Je n'irai pas jusque-là, parce que c'est quand même claqué, 350 balles pour un jeu et une console. Ça reste quand même un investissement. Moi, j'ai plutôt tendance à préconiser d'attendre la fin d'année. Il y aura plusieurs jeux qui seront sortis. Il y aura le retour de Mario Kart, il y aura le Zelda, Mario, Splatoon 2. Il y aura déjà peut-être un peu plus de jeux pour investir dans une console. Moi, je dis toujours, attendez les gars, c'est bon.
Mais Zelda peut provoquer comme un sentiment d'impatience.
Oui.
On est d'accord.
Mais il faut toute raison garder, mon cher, c'est tout.
Jean, ce Zelda.
Ah, c'est difficile de raison garder. Hein. Je... Passer les 2-3 heures, je ne veux pas vous dire grand-chose. Effectivement, il se réveille amnésique. On voit bien déjà, bon, vous le voyez sur les images, on se dit, dis donc, c'est gigantesque, c'est rien. C'est-à-dire que le gigantesque ne va faire que continuer. On est là et passer les 2-3 heures, puisqu'il faut quand même 2-3 heures, hein, c'est un vrai Zelda, il y a un nombre de boutons assez conséquent. Enfin, faut pas. Voilà. Et puis passer ces 2-3 heures, tout à coup, ça m'a rappelé Red Dead Redemption quand on traverse la rivière pour aller au Mexique et que d'un coup, après une énorme bataille, tout s'arrête, une petite musique folk country apparaît, et puis on fait ce voyage, et puis là, tout à coup, on fait, ah, ça peut être ça le jeu vidéo. Eh bien, après ces 2-3 heures, moi, quand ça s'est ouvert, j'ai fait, ça peut être, c'est encore ça le jeu vidéo. Et je m'attendais pas à ça, très sincèrement, je m'attendais pas à ça du Zelda. Parce qu'il y a eu d'autres expériences, parce que c'est quand même lui l'initiateur du monde ouvert, mais ce n'est pas lui le symbole du monde ouvert moderne, c'est GTA ou Empire, mais c'est lui qui a quand même amené ça, mais les Japonais se sont retrouvés à la bourre, bah, comme souvent, de toute façon, ces dernières années, ils ont été à la peine. Et là, tout à coup, quand ça s'ouvre, on sent et on ressent, on en avait déjà parlé pour The Witcher 3, je m'en souviens très bien, il y a un moment où on se dit... Je tiens un grand jeu. Voilà, ouais. C'est tout. Je sais que c'est un grand jeu. J'aurais du mal à l'expliquer autrement que comme ça. On sait qu'on tient dans les mains. Là, pour le coup, c'est vrai, dans les deux sens du terme.
Oui, c'est clair.
Qu'on tient un grand jeu, que ce qui va se passer va être un vrai jeu d'aventure, une véritable aventure, une véritable épopée, voilà, pour moi.
C'est, oui, mais en plus, c'est ce moment où on sort donc du plateau du prélude, où on a grosso modo... une bonne partie des pouvoirs qui vont nous être utiles
la quasi-totalité
des pouvoirs qui vont nous être utiles par la suite hein, donc le personnage est quasiment complet hein, à tous les atouts avec lui. Il prend une sorte de mini delta plane pour commencer son aventure et c'est vrai que là il y a un moment spécial et c'est très drôle que tu me parles de Red Dead Redemption, on n'en avait pas parlé avant l'émission, mais j'ai eu exactement cette comparaison-là. J'ai un rapport à ce Zelda très proche de mon rapport avec Red Dead Redemption. Surtout, sans spoiler outre mesure, mais il y a un truc, quand on arrive, on finit ce prélude, c'est qu'on a un objectif. Ça, c'est hyper classique, avoir un objectif.
Ce truc-là est génial. Mais il l'avait annoncé, là, mais c'est trop bien.
Et là, on commence, on va vers l'objectif. Ah oui. Et puis, bah, normalement, les objectifs, on les atteint en 5 minutes. Hein, maximum. Parce que c'est... Et là, non. Et là, non. Et puis là, on commence à croiser des trucs qu'on n'avait jamais croisés avant. Mais, c'est, mais pourquoi ça... On n'est pas... Et on n'a pas d'introduction. On est dans le monde à ce moment-là. Et on va vers cet objectif. Et rien que d'aller vers... Alors qu'on a l'impression, quand on nous donne cet objectif, que l'aventure va commencer quand on va y arriver, c'est là où on va y arriver qu'on va nous expliquer des choses, on va avoir des quêtes, on va avoir des missions. Et finalement, c'est un peu ça. Mais en fait, c'est le voyage. Le voyage devient l'aventure en elle-même. Et ça...
Le plaisir du voyage.
Et c'est sur ce plaisir du voyage. Moi, c'est là où je retrouve un rapport au jeu qui est très proche de Red Dead Redemption.
En fait, je trouve que ce Zelda-là donc remet plein de choses à plat. Ça, je vais y revenir. Mais surtout, partage quelque chose avec Wind Waker qui est assez flagrant. C'est que quand on fait une distance d'un point A à un point B, on ne fait pas un trajet. On fait vraiment un voyage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Il va arriver mille choses entre le moment où on départ et le moment où on arrive. Et finalement, dans ce Zelda, et ce qui est très fort, c'est qu'on met un temps fou à arriver en effet à ses objectifs. Mais pas parce qu'il y a des difficultés sur le chemin, mais parce qu'il y a plein de choses à découvrir, qu'on s'arrête pour des choses agréables, qu'on fait « c'est quoi ce truc ?» Et puis « oh, là-bas, un sanctuaire, qu'est-ce que c'est ?»« Oh, c'est un camp de gobelins, je vais me les faire !» Tu vois, c'est que des trucs comme ça, c'est des petits plaisirs. On digresse, mais tout le temps, on sort à chaque fois du sujet pour des petites choses, des petits moments de bonheur, en fait, qui vont parsemer le parcours. Après, on fait « je faisais quoi déjà ?»« Ah oui, merde, je suis allé là-bas !» Et rien que ça, c'est une grande réussite à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est ce qui définit le voyage, c'est les imprévus, c'est des choses qui sont pas, on va dire, scénarisées. C'est des choses qui vont arriver et chaque personne qui va faire chacun des trajets dans le jeu va avoir une expérience différente parce qu'il va passer par le coin qu'il veut. Ah, il y en a un qui va prendre le chemin de la montagne, il y en a un autre qui va passer...
J'étais dérouté au début. Oui, j'étais dérouté face à cette liberté, et puis face à cette liberté et face à ce chemin qui est quand même loin d'être évident. Enfin, c'est.
Il faut noter qu'il y a de l'endurance, donc on fait de l'escalade. L'escalade est limitée. la course, courir, bon, bah, ça dans Skyrim ça existait aussi. Mais là, on est en escalade, c'est-à-dire qu'au milieu de l'escalade, on peut quand même se casser la figure et mourir et faire un petit game over. Et donc, du coup, tout est compté, les efforts sont comptés. On se dit, mais est-ce que je peux passer par là et est-ce que je tombe?
Allez, j'ai des potions d'endurance, ça va le faire.
Allez, on y va.
Et on tombe et on meurt.
Et surtout, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, c'est qu'au début, je me suis dit, évidemment, on est dans un côté médiéval, fantastique, bon, ça, on connaît, mais qui est fantastique. Il y a du fantastique, mais il n'y a pas de loufoque. Enfin, il n'y a pas de grotesque. Ouais. Dans Zelda, il y a beaucoup de grotesque dans les personnages. Et puis, petit à petit, le grotesque apparaît. Parfois, on rencontre quelqu'un qui vous dit « Tiens, mes maracas, elles sont en panne, il me faut des magos. » Alors que t'es dans un truc, toi, super sérieux, tu vas dans ton village, tu vois, t'es pas là pour rigoler, quoi. Et le mec te dit « sont où mes noix pour mes maracas ?» Tu fais « Tu vas te calmer, bon, j'arrive, je reviens. » Et d'un coup, tu rigoles parce que d'un coup, il y a l'irruption de ce grotesque qui était généralement là tout le temps ou en présent tout de suite. C'est dans l'ADN, mais de le mettre de manière parcimonique comme ça, par petites touches, je trouve ça vraiment, là, qu'est-ce que ça m'a fait.
Pardon, je suis en train de regarder, il y a une session de jeu qui est en train de se dérouler, je suis en train de voir une très mauvaise idée en train de se mettre en place, donc quelqu'un qui pose une bombe à côté d'un énorme troll et qui pense que tout va bien se passer. Oui, non, vrai. Rien ne va bien se passer, hein, évidemment, tout
quelle
ça
mauvaise
va terminer
idée. Ouais, mais il a une grosse hache quand même.
Voilà, donc là, c'est parti, c'est la mort assurée. Bref. Et c'est ça qui est drôle aussi dans Zelda, c'est qu'en fait, il est d'une certaine brutalité au niveau de sa difficulté, c'est-à-dire qu'on était habitué aux Zelda qui nous prenaient par la main, qui t'en fais pas mon petit Link, tu as 3 cœurs, mais tu vas perdre 4 quarts de cœur. Là, on démarre avec 3 cœurs, mais les ennemis nous en enlève 5 allègrement par coup, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. En fonction, donc, on a plusieurs stats, évidemment, on a notamment sa défense corporelle qu'on a en fonction des vêtements qu'on porte. Et au départ, eh bien, on a des vêtements un peu pourris. On commence avec une vieille chemise et un vieux pantalon qui ne protège rien du tout. Et du coup, quand vous faites une chute ou si jamais vous prenez une baffe d'un ogre, par exemple, eh ben ouais, c'est toute ta barre de vie qui s'en va, ou alors ça te laisse à un quart de cœur si tu fais une mauvaise chute, alors que dans un Zelda normal, c'est un cœur au grand max.
On meurt beaucoup. Hein,
on meurt énormément. Zelda, hein, ma première mort m'a traumatisé personnellement, donc c'était sur le plateau du Prélude, et je voulais traverser une rivière gelée, et je suis tombé. J'ai glissé, en fait, il faut construire un pont avec son pouvoir dément, il faut construire un pont de fortune, et j'ai glissé, j'ai raté mon saut. Je suis tombé dans l'eau, je suis mort d'hypothermie. Immédiatement, c'était réglé. J'ai fait
Ah oui, d'accord, ok, très bien. Alors, et c'est vrai que c'est un jeu qui vous prend pas par la main aussi, dans le sens, donc il vous laisse une très grande liberté, mais cette grande liberté se retranscrit également dans son game design, mais de manière très profonde. On se rappelle tous de Skyward Sword et de cette horreur qu'était Faye, ce sidekick qui vous disait tout ce que vous deviez faire à chaque instant, c'était insupportable. Le premier donjon se rencontre au bout de 6 heures, mais c'est parce qu'il y avait 3 heures de dialogue avec Faye, quoi, donc c'était terrible. Là, vraiment, vous chopez votre premier bouclier, on vous dit, le bouclier, c'est cette touche. Okay. Vous chopez votre première épée, le brandir son épée, c'est cette touche. Point. Vous avez une infobulle à chaque fois, et après, on vous fout une paix royale. Et ça fait du bien, mais c'est dingue. Ouais. Vous découvrez par la brutalité du monde. Si vous allez mourir plusieurs fois, mais c'est pas une mort frustrante. Alors déjà, parce qu'il y a des sauvegardes automatiques qui sont très régulières, mais aussi parce que vous aurez appris un truc. Ne pas tomber dans l'eau glacée, par exemple. Ça, c'est une bonne idée, parce que même si vous pouvez manger autant de plats épicés que vous voulez, vous allez crever. Et c'est que des choses comme ça. Ou alors, bah, les monstres bleus, là, qui sont dans des camps de Moblins, là, eh ben, il faut pas les énerver, parce qu'ils vous mettent un coup, vous êtes mort, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, vous allez plutôt vous arranger pour les avoir par la stratégie, par exemple. Bon, eh ben, on va attendre la nuit pour qu'ils dorment, et on va les backstabber, les mettre un petit coup de dague dans le dos pendant qu'ils dorment, et ça va les tuer en un coup, et je serai tranquille. Donc, c'est un jeu qui se base beaucoup sur le...
Je note, les pistes.
Non, mais il y a plein de pistes. En fait, on apprend par l'erreur. C'est un jeu qui vous laisse une liberté dans son game design. Et aussi dans le... Enfin, c'est incroyable. Je pense que je peux le dire, parce que c'est quelque chose qui a été déjà dit dans des conférences de presse et tout ça. Mais c'est un jeu où vous pouvez aller voir le boss de fin dès le début du jeu.
Il y a l'objectif.
L'objectif apparaît.
Apparaît tout de suite.
Va buter un tel.
Voilà, ok.
Et c'est l'objectif principal que vous aurez tout le long du jeu.
Après le plateau, voilà. Mais pourquoi il dit ça maintenant ?
C'est fort. Et apparemment, on peut. Alors, j'ai pas essayé moi-même, mais vous pouvez, si vous voulez, avec votre branche d'arbre et votre morceau et votre
ouais, bah, t'es mal, hein,
votre couvercle de marmite en guise de bouclier, vous pouvez aller à la fin du jeu et tenter votre chance.
Ouais,
À mon avis, ça va mal se terminer, mais c'est possible. D'ailleurs, il y a des donjons dans le jeu. Ces donjons-là, disons, ne vont pas abaisser une barrière invisible dans le jeu qui va vous empêcher d'accéder à ce boss de fin. Ils vont vous donner effectivement quelque chose qui sera très cool d'avoir à la fin du jeu. Mais si vous voulez faire aucun donjon, il me semble bien que c'est totalement possible. Vous pouvez laisser le monde dans l'état qu'il est et juste aller droit au but.
Alors c'est jamais droit au but, hein, on l'a déjà dit. Hein, ouais, mais c'est jamais droit au
but. C'est compliqué. Hein,
d'autant que le jeu est très bien pensé dans sa... Donc il y a eu une remise à plat totale de la structure de game design générale qui était avant donjon liant de quête et compagnie, donjon exploration. Là, c'est exploration. Parsemé de sortes de mini-donjons qui sont des sanctuaires qui ont une double utilité. La première, c'est que vous pouvez vous y téléporter une fois que vous l'avez visité. Et pour se déplacer dans cette immensité qu'est Hyrule dans cet épisode-là, c'est nécessaire. Et vous avez en fait à l'intérieur des petites épreuves. Alors ça peut être du combat, ça peut être de la réflexion, ça peut être des énigmes, ça peut être des puzzles, ça peut être plein de choses. Et en fait, à la fin, vous allez obtenir un objet qui s'appelle un emblème. Et contre quatre de ces emblèmes, vous pouvez obtenir un cœur en plus. Donc au revoir les fragments de cœur, ça n'existe plus dans ce Zelda, et vous pouvez, ou alors de l'endurance en plus. Et ça en fait, ça va vous permettre de mieux survivre dans ce monde-là. En fait, il y a une vraie progression organique dans votre personnage qui est, t'es pas obligé de faire ces donjons, mais si tu le fais pas, tu vas pas y arriver, mon gars. Donc fais-les, c'est important parce que grâce à ça, tu vas plus avoir 3 cœurs mais 8, tu vas plus avoir une seule barre d'endurance mais 2, et grâce à ça, tu vas pouvoir monter en haut de montagnes plus grandes, tu vas pouvoir te battre contre des ennemis plus forts, et c'est super important. Et ça, on le découvre par nous-mêmes. Encore une fois. Et c'est très courageux de la part de Nintendo d'avoir enfin réussi à se débarrasser du spectre d'Ocarina of Time qui plane au-dessus de cette série depuis finalement, depuis l'arrivée en 3D.
Le nouvel épisode de référence, c'est celui-là. Hein. Disons-le bien, Ocarina of Time, bon,
c'était la recette.
Celui-là, on sait qu'il est géant. Enfin, voilà. Et puis, contre cette immensité, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, moi, c'est les petites musiques. En fait, tout se joue sur des petites notes de piano. C'est quelque chose qui accompagne, en fait. Mais on ne veut pas l'imposer, on ne surligne pas, tout est en délicatesse par rapport à ce monde un peu sauvage. Et je trouve ça très fin. Je trouve que c'est un jeu très délicat dès le début. Très juste, je trouve. Enfin, c'est très fort, vraiment.
C'est ce que tu m'as dit, mais je trouve qu'en plus, cette délicatesse avec... Enfin, comment dire, il y a une alchimie qui est très étrange dans ce Zelda. Tu parlais de on nous largue complètement dans un univers quand même violent, dans un univers rugueux. Enfin voilà, c'est quand même pas simple. On va rarement droit parce que alors, les trucs trois fois plus hauts que notre taille, ou quatre fois ou cinq fois. Enfin voilà.
Il y en a beaucoup.
Et en même temps, voilà. Et en même temps, ce qui en ressort, c'est une finesse. En même temps, ce qui en ressort, c'est une subtilité.
Mais aussi dans l'animation. Hein. Ouais. Alors beaucoup citent Ghibli ou moi, j'irai peut-être pas jusque là, mais il y a de il y a une vraie côté animation japonaise, fine, délicate. Enfin voilà.
Pour ceux qui connaissent, il y a un vrai côté château dans le ciel, notamment dans le côté ancienne technologie qui est maintenant un petit peu, la nature a un peu repris ses droits dessus, enfin on ne peut pas ne pas y penser. Quoi.
Et quand même, monde ouvert. Enfin, monde ouvert.
Et monde ouvert réussi.
Nintendo.
Pas monde ouvert réussi. Monde ouvert très réussi.
Voilà,
Enfin, c'est-à-dire qu'on tient quelque. Alors, je sais pas. Après, c'est souvent des gros mots. On tient. On sait que quand on a le jeu en main, on n'en aura pas des millions comme ça dans les mains.
Et monde ouvert. Bien à eux. Ils n'ont pas fait du copier-coller. Non, c'est un vrai. Ils ont digéré les autres. Exactement. C'est un vrai melting pot très réussi.
Sincèrement, moi étant finalement beaucoup plus monde ouvert que Zelda, je suis épaté parce que c'est vrai que la structure du monde ouvert, généralement, qui est une structure de quête principale, de quête secondaire, qu'on va déclencher à notre bon vouloir et tout ça, il la garde, mais en rajoutant, en rajoutant une sorte de level design général du monde ouvert.
Absolument.
Exactement. Et du coup, on les oublie. Parce que du coup, on a sa quête, bon, on fait sa quête.
Ouais.
Et puis on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais tu as déjà oublié, puisque tu as déjà rencontré quelqu'un d'autre qui va te dire.
Et
en fait, c'est un jeu d'exploration. C'est un grand jeu d'exploration et d'aventure.
Ils ont level designé
un monde ouvert.
Le monde ouvert, gigantesque, des kilomètres carrés de monde ouvert où la moindre colline
est designée.
Mais on se rend compte dans le jeu que c'est ça. Hein. Enfin,
c'est Nintendo à son meilleur. Quoi. Moi, Nintendo, c'est toujours dans l'ADN, c'est du game design, c'est du level design, c'est de la maniabilité, c'est de la jouabilité. Et ils ont réussi à appliquer ça sur un truc où on pensait que c'était inapplicable, c'est-à-dire un monde ouvert, c'est trop de travail normalement sur les choses. Et là, tu fais, non, ils ont réussi à le faire. Et c'est magnifique.
Appliqué à un phénomène qui est l'épique, c'est-à-dire le souffle épique. Comment tu donnes un souffle épique? The Witcher 3 avait réussi, mais avec dans son alchimie avec, par exemple, la littérature, extrêmement réussi. C'est nous qui faisons notre histoire et on veut explorer. Et plus on l'explore, et plus on aime l'explorer. Enfin, je veux dire, il y a un truc, un effet boule de neige qui est quand même vraiment saisissant.
Et là, je veux bien éclairer Gilles Félicine, donc je vais conclure rapidement sur le scénario.
Non, c'est bon.
Non, c'est bon, on a du temps.
Parce que
je voulais. Il faut quand même parler du doublage, du scénario. Parce que pour une fois qu'on a un Zelda, avec un scénario qui est un peu moins gnangnang que d'habitude, avec des vrais personnages un peu plus complexes qu'à l'habitude, déjà rien que le Link n'est plus une coquille vide, un truc simple, hein, on ne nomme pas, il est mutique, mais on ne nomme pas son personnage, c'est Link.
C'est vrai.
Il a son histoire, qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'il va redécouvrir son passé. Il y a des personnages qui ont quand même des destins assez tragiques, moi je trouve, dans le jeu. C'est quand même un royaume qui est meurtri, dont on voit les stigmates, ne serait-ce que dans les ruines. Il y a un petit côté Dark Souls aussi, hein, dans le côté, voilà, il y a des ruines de châteaux qui sont là, qui ont une histoire, on sent qu'il s'est passé des trucs. Il y a des cinématiques, il y a une quête extraordinaire où on a des photos dans sa tablette, il faut retrouver les lieux dans ce monde gigantesque, mais c'est drôle parce que tu dis, t'es là en train d'observer la topologie de ta carte, c'est bon, ça peut être tout cette montagne là, pas et tout. C'est une vraie chasse au trésor de cool.
Il y avait ça dans Red Dead.
Super inspiration, c'est une très bonne idée.
Sur les trésors de Red Dead où il y avait des petits dessins, il y avait des petits dessins avec l'arbre qui ressemble à ça et la colline.
Moi je trouve ça super et c'est un petit jeu pour retrouver le passé de Link via des flashbacks et compagnie. C'est super, le doublage est assez juste.
Ça ne ressemble qu'à Zelda. C'est un monde ouvert, on pourra toujours citer tous les mondes ouverts qu'on veut. À mon avis, ils y ont joué. Mais alors, du coup, c'est un Zelda. Enfin,
Extraordinaire performance. Enfin, moi, il y en a, et sincèrement, il y en a peu, hein, des jeux dans Silence on joue où on arrive comme ça à cette sorte d'évidente conclusion.
On peut noter le framerate quand même irrégulier. Et
allez, le petit point framerate.
La distance d'affichage qui est un peu courte. C'est vrai que les monstres apparaissent des fois devant notre nez, c'est un peu dommage. Et la version Wii U qui accentue encore plus ces problèmes. Voilà. On note quand même les petits points faibles.
Zelda Breath of the Wild. donc qui est vendu avec son écran pour 350 euros.
Et dont l'édition Game of the Year aura des 10 sur 10 bradés partout sur la pochette.
Et qui aura des DLC aussi. Hein,
il faut mais oui, je veux des DLC maintenant. On râlait avant, mais maintenant j'en veux.
Tout le monde a râlé à l'annonce des DLC. Et maintenant que le jeu est sorti, je crois que tout le monde est ravi parce qu'on n'a pas non plus l'impression qu'ils ont.
Ils ont pas rushé le jeu, non.
Voilà, et ils n'ont pas coupé le jeu pour pouvoir ajouter des DLC après, en fait. C'est sûr.
Vivement.
Ah, je veux un DLC. Merci tous les deux pour cette émission hein, un peu spéciale. Et puis bah voilà, et maintenant la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Jean ? À la place faire des
expos. Le problème, c'est qu'entre l'expo, le boulot, le machin, j'ai pas eu beaucoup d'heures de vie, mais j'ai réussi quand même à m'immiscer dans une séance de La La Land complète. Et c'est pas très réussie comédie musicale, il faut quand même le dire, mais c'est une très belle comédie romantique. Donc du coup, voilà, je suis entre les deux, mais je conseille pour
pour l'histoire.
Oui, pour la romance, et puis pour une romance qui du coup est faussement à l'eau de rose, qui est bien jouée là-dessus, qui est clairement d'où sa mère, et qui joue là-dessus, avec de belles musiques, mais qui frustre de ce côté-là mon petit cœur d'amoureux de la comédie musicale, voilà.
Quentin.
Bah pareil, alors je voulais dire La Lande aussi, parce que je l'ai vu il y a deux semaines, mais...
Tu n'es pas d'accord, donc il va y avoir un...
Ouais, voilà, un peu l'inverse. J'ai adoré les musiques, tout ça. En fait, c'est vrai, je comprends ce qu'il veut dire, parce qu'on en a un petit peu discuté avant l'émission, mais c'est vrai que les thèmes musicaux ont un peu tendance à se ressembler.
Ils sont
très bien.
Ça s'incruste dans la tête, c'est mortel.
En fait, moi je trouve qu'il a plutôt trouvé un juste milieu, justement, entre la comédie musicale à l'ancienne, où tout est musical, justement, et... peut-être un petit peu plus le... Je sais pas, on va tout le monde dit Jacques Demy, mais c'est ça. C'est un peu plus, voilà, un film musical plus que une comédie musicale. Donc, même si en vrai, les références sont plutôt autres à ce niveau-là, mais... Bon, moi, j'ai passé un très très bon moment. J'écoute la BO en boucle. Au boulot, il me déteste parce que je fredonne tout le temps les airs. Après, l'histoire en elle-même est, bon, ouais, bon, je trouve un peu plan-plan, mais sauf sur la fin que j'ai trouvé, ouais, la fameuse fin d'où sa mère, j'ai trouvé extraordinaire. Moi, personnellement, ma copine était extrêmement frustrée par cette fin. Elle était en mode, mais ils sont chiants et tout, pour rien pour ça. Mais, moi, j'ai bien.
Et moi pour ma part, ah oui, je l'ai pas annoncé dans Silence on joue, mais quand même, hein, il faut quand même annoncer un peu de silence. Donc ma nouvelle carrière à moi que j'ai de YouTuber, voilà. Hein, donc en plus de Silence on joue, pour ceux qui nous écoutent, il y a sur YouTube et sur No Life dans leur nouvelle émission qui s'appelle En mode normal le lundi soir, je fais une petite chronique de 5 minutes sur un thème comme ça, le jeu vidéo. Ça avait commencé à faut-il défendre le jeu vidéo point d'interrogation et la deuxième, c'était un peu temps de violence, et je vous laisse découvrir les suivantes sur YouTube, sur Noco, sur No Life, et voilà, et partout.
Ailleurs. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne d'Erwan Cario.
C'est la chaîne de Silence on joue.
Ah, pardon.
Ah, voilà, ah, c'est ça.
C'est pour ça que, voilà, ça y est, il faut assumer ton nom.
Non,
c'est
même non, attends,
il faut assumer ton
égo
maintenant.
Non, pas tout en même temps, laissez-moi du temps. Allez, on se retrouve, merci encore. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine sur No Life, sur Libération et sur les internets. Ciao.